Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Canal AM ce mercredi 15 juillet. C'est Christine Boucard qui vous parle et avec moi pour débuter cette belle journée. Louise Mercier, Daniel Rioux, que je salue.
Bonjour.
Bonjour à vous deux. Alors, donc, de quoi allons-nous parler? Bénévole de la PJ, Louise?
Oui, le bénévolat, c'est tellement important. Donc, on va voir l'histoire d'une bénévole qui transporte des enfants d'un bout à l'autre de la ville.
Et les gens vont dans les manèges cet été, mais il y en a certains qui ont des maux de cœur. On va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça.
Ah oui, surtout en ce moment, avec tous les festivals.
Et avec la chaleur.
Pas aujourd'hui, par contre.
Non, pas aujourd'hui. Fort heureusement. Fort heureusement.
Et ensuite, allons-nous parler de secrets de famille également, Daniel?
Oui, les squelettes dans les placards, les secrets de famille, on en a tous, je crois, je pense.
Des petits, des gros, peut-être.
Des petits, des gros. C'est ce qu'on va voir ensemble un peu plus tard dans l'émission.
Et Louise, un homme, une femme? Non, c'est pas un homme, une femme, c'est un homme et deux femmes.
Deux femmes et, en fait, j'ai poursuivi dans le thème de secret, donc c'est des relations amoureuses connues.
En ce qui me concerne, je vous parlerai donc horticulture, la biodiversité chez soi. Et on apportera également un sujet qui concerne les enfants, la crème pour enfants en cette période estivale. Alors je laisse la parole à mon amie Louise. Merci.
Alors, bienvenue en cette belle journée ensoleillée, un peu fraîche et ça fait du bien d'après moi.
Beaucoup.
Donc, comme je disais en entrée, bénévole de la DPJ, je trouve ça tellement important qu'une société ait des bénévoles. Donc, quand je peux, je lis des articles sur eux. Alors, c'est Sylvia Galipo qui a paru ce texte-là dans la presse le 13 juillet dernier. Fraîchement retraitée, elle se lève aux aurores pour jouer au taxi une bonne partie de la journée. Pour qui? Pour des enfants qui ne sont pas les siens. Une sainte, vous dites? Non, mais pas loin. Voici Gabrielle Mattern, chauffeuse bénévole pour les enfants de la DPJ. Nous l'avons rencontrée un petit matin de juin pour une journée bien remplie. Assise dans sa Subaru, nous avons sillonné avec elle la ville d'est en ouest, du nord au sud, sans relâche, déjouant ainsi les bouchons, nids de poules et cônes oranges. Quand on connaît l'état des routes de la métropole, on sait à quel point ce périple relève de l'exploit. Pourquoi faire, au juste? Une bonne action entre mille. Aller chercher un enfant ici, dans sa famille d'accueil, pour l'amener là-bas, retrouver ses parents biologiques, pour une rencontre supervisée. En chercher un autre à l'école pour un rendez-vous avec sa mère, dans une salle d'attente d'un centre jeunesse. Parce que sans transport, ces enfants-là feraient quoi? Comment se rendraient-ils à leurs différents rendez-vous, rencontres avec leur travailleur social, avec leurs parents, au tribunal? Excellente question. Des besoins criants. Quand on sait que chaque année, le Centre jeunesse de Montréal rend des services à plus de 13 000 enfants et familles, gère un réseau de plus de 560 familles d'accueil, hébergeant plus de 1100 enfants, sans compter les différents sites et foyers de groupes qui logent à leur tour quelques 700 jeunes, on saisit un peu l'ampleur des besoins. Or, au total, seuls 43 bénévoles comme Gabrielle Mattern transportent ainsi ces enfants de 0 à 18 ans négligés, abusés, maltraités ou carrément abandonnés. Des enfants tous aux prises avec un sérieux trouble de l'attachement. Alors, si vous lui demandez pourquoi elle fait ça, la dame n'hésite pas. Tranquillement, elle répond « Pour faire quelque chose de bien dans ma journée, pour aider un enfant », dit-elle comme s'il s'agissait de l'évidence même. Il est 8h10 et nous rencontrons devant un bureau du Centre jeunesse de l'Est de la ville. Première destination, le Nord, afin de ramasser un bambin, à reconduire ensuite dans un centre de jour spécialisé pour les enfants aux prises avec un trouble de l'attachement. Le trajet est long et nous avons amplement le temps de jaser. Le privilège d'aider un enfant. La bénévole est enjouée, dynamique, rieuse. On dirait qu'elle a le boulot le plus divertissant en ville. « Je n'ai jamais été aussi occupée », dit-elle en pouffant. Disons, j'ai de la misère aujourd'hui. Dites en pouffant la femme.
Il y a des journées comme ça, hein?
Oui, c'est
transition,
ça.
Chaleur, fraîcheur.
Ça m'a pas fait. La femme élégante à la manucure impeccable qui a tout de même travaillé 35 ans aux ressources humaines d'Air Canada. Un changement de clientèle, en fait. Et c'est aussi en des termes surprenants qu'elle parle de son bénévolat, du privilège de passer du temps avec ses enfants, de certains dont, veut, veut pas, on s'attache, même du courage de leurs parents, qui, à bout de souffle, appellent parfois pour demander de l'aide. Chaque fois qu'elle fait monter un enfant dans son auto, après l'avoir attaché et repris le volant, et il faut l'avoir changé ses sièges d'appoint comme une vraie pro en deux temps trois mouvements, elle sait rapidement trouver le mot juste pour l'apprivoiser. Tu veux écouter Caillou? 30 fois dans la journée, nous chanterons ensuite chez nous, à la maison. Une sainte, vous dites? Le truc, prendre son temps. Parfois, les enfants, comme le premier que nous ramassons, sont d'une timidité à tout casser et ne soufflent pas un mot du trajet. Elle ne saura alors rien d'eux. D'autres ont visiblement envie de parler. Si certains font des crises, bien sûr que oui, parce qu'ils ne veulent pas quitter leur mère ou inversement, ne veulent pas quitter la famille d'accueil, ou encore parce que le parent ne s'est jamais pointé au rendez-vous. Oui, ça arrive. Le transfert dans sa voiture n'est pas nécessairement évident. Alors on prend son temps, dit-elle, tout simplement. On reste tranquille, on parle, on prend un peu notre temps et on part. Je sais qu'avec un enfant, autant que possible, si on lui donne un peu de temps, il sait ce qu'il doit faire. Gabrielle Mattern, bénévole. La matante par excellence. Et à la voir aller, on n'a pas de mal à la croire. Comment s'appelle le chat de Caillou? Tu veux un bonbon? Elle est la matante par excellence. Et la matante sait aussi très bien que quand elle va chercher un ado à l'école, mieux vaut cacher son identification du centre jeunesse. Pour ne pas gêner l'enfant, pour ne pas éveiller les soupçons, bref, pour passer inaperçu. Dis que tu as une vieille tante tannante et pas cool. Ou encore, je suis l'amie de ta mère, tu as rendez-vous chez le dentiste. Un bref instant d'affection. Nous ramassons ensuite une gamine de 2 ans dans sa famille d'accueil pour l'amener à son tour dans une maison anonyme d'Hochelaga-Maisonneuve, à une visite supervisée de 6 heures en présence de ses parents biologiques. La gamine a des grands yeux cernés, mouillés. Elle tient fermement 2 toutous panda et ne souffle pas le moindre mot du trajet. Mais à force de chansons, Gabrielle Mattern finit par lui arracher un sourire. Mieux, arrivée à destination, la petite la regarde et sans un mot lui tend les bras. La bénévole se penche et la porte affectueusement jusqu'à la maison. Toujours muette, la gamine patiente dans un petit portique qui fait office de salle d'attente, quand tout à coup arrive une deuxième fillette à peine plus vieille en courant. « Sophie !» Le visage de la petite s'illumine. On devine qu'il s'agit de sa sœur, également convoquée à une rencontre supervisée. Et non, vous l'aurez compris, les deux enfants ne sont pas placés dans le même foyer d'accueil. Ça arrive, nous confie alors son chauffeur, qui a déjà connu des jumeaux ainsi séparés. Ils étaient dans 2 familles différentes, dans 2 villes différentes. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir pourquoi. Une fois les deux petites parties, les deux chauffeurs se saluent, échangent quelques mots, puis reprennent leur route. Pas de temps à perdre. D'autres enfants les attendent. Le prénom a été changé pour préserver l'anonymat de l'enfant. 30 000 déplacements sont faits chaque année à la DPJ. 59 km, distance moyenne d'un déplacement. 3 millions de kilomètres sont parcourus chaque année. 61 ans, moyenne d'âge des bénévoles de la DPJ.
Alors, l'été, c'est synonyme aussi de manège, hein, quand on va à la ronde. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à la ronde ici?
Oui, on a des filleuls, on a des enfants, il faut y aller.
Il faut y aller, on a des souvenirs, on a aussi nos manèges préférés. Et puis aussi, on peut penser à des expositions, des fois en région, les expositions agricoles. Alors, manège, la grande roue, puis on peut avoir un peu l'esprit Walt Disney, à s'imaginer aller sur des beaux manèges. Mais avec les manèges aussi, des fois, on se raconte des histoires de sensations fortes, mais aussi de mal de cœur, tu sais, les histoires désagréables. Et justement, c'est un article de Catherine Hanfield qui est paru dans la presse, dans la section Pause Santé le 29 juin dernier, et elle y parle justement des sensations fortes et mal de cœur. On va en savoir un petit peu plus. Alors, c'est Sarah Arsenault, 35 ans, qui a toujours eu une relation amour-haine avec les parcs d'attractions. Jeune, elle attendait avec impatience le jour J, mais une fois assise dans les manèges, elle se sentait hyper fébrile. À l'époque, toutefois, elle n'avait jamais mal au cœur. Les choses ont changé vers la fin de la vingtaine. Les chaises qui tournent dans les foires me font lever le cœur et le bateau pirate, je le vois déjà passer devant moi, le bateau pirate me rend verte, raconte Sarah, qui aujourd'hui est mère de deux enfants. Aujourd'hui, elle dit même que les balançoires dans les parcs lui donnent la nausée, c'est peu dire. Le mal de cœur que plusieurs ressentent dans les parcs d'attractions est à l'image du mal de mer, une facette du mal des transports, explique justement Kathleen Cullen, qui est directrice du Centre de recherche en médecine aérospatiale à l'Université McGill. Le mal des transports augmente-t-il à l'âge adulte? C'est à se demander. Bien, étrangement, non.
Mais j'ai toujours entendu que on vieillissait, il y avait comme un problème interne.
Vous allez voir. L'âge de 2 et 15 ans, la sévérité du mal des transports a tendance à augmenter. Mais après cela, elle se stabilise, explique le Dr. Cullen. Par contre, évidemment, on va parler des femmes. Chez les femmes, on observe souvent une hausse de la sévérité du mal des transports vers 35 ans et à l'âge de la ménopause. Peut-être que ça nous concerne, peut-être que ça vous concerne à la maison, je ne le sais pas. On ne comprend pas encore très bien le phénomène, mais cela pourrait être lié aux changements hormonaux, ce qu'elle indique. Un phénomène méconnu. En fait, souligne la docteure Cullen, la science ne comprend pas encore totalement les mécanismes physiologiques qui interviennent dans le mal des transports, un phénomène dit très complexe. Selon la théorie la plus répandue, le mal des transports serait le résultat d'un conflit sensoriel entre la vision et le système vestibulaire. Le système vestibulaire, c'est un organe qui est situé dans l'oreille interne, qui détecte le mouvement de notre tête dans l'espace et permet d'assurer l'équilibre de notre corps. Elle nous dit, quand on regarde un film 3D dans un cinéma IMAX, nos yeux nous disent que nous bougeons. Mais notre système vestibulaire, c'est-à-dire l'organe situé dans l'oreille interne, nous indique le contraire. Il y a donc un conflit sensoriel. À l'inverse, quand on regarde un point fixe en bateau ou en voiture, nos yeux ne perçoivent pas le mouvement. Mais notre système vestibulaire, oui. Encore une fois, il y a un conflit sensoriel. Et dans les manèges, qu'arrive-t-il? Selon Kathleen Cullen, deux types de conflits sensoriels peuvent survenir. Si on regarde nos enfants ou le siège d'en avant, nos yeux ne perçoivent pas le mouvement, mais notre système vestibulaire le perçoit. Autre possibilité, dans des manèges qui tournent à une vitesse constante, le système vestibulaire finit par s'adapter et à ne plus détecter le mouvement. C'est un peu comme quand on tourne sur soi-même. Dès qu'on lève les yeux et qu'on voit le monde qui nous entoure, le mal des transports, le conflit sensoriel survient à ce moment-là. Attention au stress. Alors, le stress, la peur de monter, par exemple, dans un manège et l'anxiété que plusieurs ressentent en mettant le pied, justement, dans la grande roue, dans un manège, dans le bateau pirate, sont reconnus comme étant des facteurs aggravants du mal des transports. Cela explique probablement en partie pourquoi, en vieillissant, certains ressentent un plus grand malaise dans les manèges. C'est aussi une question d'habitude. Plus on pratique une activité, plus le mal des transports qui est associé diminue. Donc, la meilleure façon de se sentir mieux dans les manèges, c'est d'être plus actif et d'en faire plus souvent, donc d'accompagner les filleuls, résume le Dr. Cullen. Vous vous en porterez mieux, qu'elle dit, et vos enfants et vos petits-enfants aussi, peut-être nos petits-enfants, que sais-je. En tout cas, on gagne à y aller en vieillissant dans les manèges. Peut-être retrouver notre cœur d'enfant en même temps. Mal de cœur, pourquoi? Une question demeure. C'est la question. Elle y arrive à la fin, la nausée. Pourquoi le conflit sensoriel donne-t-il la nausée? Plusieurs théories existent. Selon l'une d'elles, l'homme n'a pas eu le temps de s'adapter à la voiture et à la navigation tant ces nouvelles technologies sont apparues rapidement dans l'évolution. Intéressant. Le cerveau considérerait le conflit sensoriel comme le résultat de l'ingestion d'un poison et commanderait au corps de le vomir. Selon une autre théorie, le mal de cœur aurait comme fonction d'inciter la personne à arrêter l'activité en question parce qu'elle met en péril des réflexes essentiels associés à la vision et à l'équilibre. Alors, pour avoir moins mal au cœur dans les manèges, quoi faire? Il y a 6 étapes. Ne parlez pas à vos amis. dans le manège. On parlera après.
Est-ce qu'on en aurait le temps?
Je suis pas sûre des fois. Fixer un point à l'horizon. Se stabiliser. Essayer d'anticiper les mouvements du manège. Alors, s'il tourne à gauche, on essaie de suivre le mouvement du manège. Faire semblant que vous le conduisez. C'est peut-être rassurant, mais il ne faut pas le dire aux autres. Et éviter de manger un repas lourd et épicé. Ça, c'est toujours l'histoire classique. Et finalement, rester calme.
Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin. Pour qu'il soit aussi beau que toi. Si tu veux attendre avec moi que les oiseaux reviennent, si tu peux souffrir ces semaines de silence et de froid, j'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour, quand tu y crois. Cet été, je ferai un jardin. Si tu veux rester avec moi encore quelques mois, il sera petit, c'est certain, j'en prendrai bien soin, j'en prendrai bien soin, pour qu'il soit aussi beau que toi. Les légumes et les fruits, avec la foi des tout petits, le soleil de 5 heures fera renaître nos ardeurs. Tu te souviens de nos étés, si tu voulais encore rester jusqu'aux chaleurs.
Merci Mathieu à la régie pour cette chanson « Un jardin, je ferai un jardin » de Clémence Durocher. Ce qui m'amène, donc c'est Christine au micro de nouveau, ce qui m'amène à vous parler de cet article de Camille Dufresne paru dans Québec Oiseau, été 2015, « La biodiversité chez soi ». Il se trouve d'ailleurs que récemment, ça doit être d'actualité, puisque récemment en me promenant sur la piste cyclable du Vieux-Longueuil, j'ai découvert qu'il y avait des zones qui avaient été réservées sur le bord de la piste à la nature. Il y avait même des panneaux qui signalaient aux promeneurs que la zone était volontairement laissée libre à elle-même. Alors la biodiversité chez soi, c'est quoi? Parmi les nouvelles tendances en horticulture, la bande florale a d'autant plus la cote qu'elle accroît la biodiversité au jardin, pour le plus grand bénéfice des oiseaux. Depuis quelques décennies, on assiste à l'appauvrissement et à la destruction d'écosystèmes, ce qui entraîne une diminution croissante de certaines populations animales et végétales. Plusieurs espèces d'oiseaux sont touchées par ce phénomène, tout comme un nombre grandissant d'insectes pollinisateurs. Le problème revêt une extrême importance, parce que ces insectes sont indispensables à la santé de nos écosystèmes et à la production des fruits, légumes et grains entrant dans l'alimentation humaine. L'abeille domestique, par exemple, est l'espèce pollinisatrice la plus connue, mais la faune indigène comporte plusieurs espèces de bourdons, d'abeilles sauvages, de mouches, de coléoptères et de papillons qui contribuent à la pollinisation. Dans les milieux agricoles où les monocultures dominent, la trop faible variété de plantes a été pointée du doigt comme l'une des causes de ce déclin. Différents projets d'aménagement de bandes florales visant à augmenter la biodiversité ont été expérimentés dans plusieurs types de cultures. À la suite de ces essais, il a été clairement démontré qu'augmenter la diversité florale exerce un grand attrait sur les insectes pollinisateurs, tout en présentant un intérêt faunique certain, principalement pour les oiseaux. Et on ne s'en plaindra pas. Un projet de bande florale urbaine, donc. La biodiversité biologique d'un jardin urbain peut être grandement améliorée par l'aménagement d'une bande florale. Une bande florale, d'ailleurs, qui peut être tout simplement sur le balcon. Celle-ci se distingue d'une plate-bande par des considérations plus écologiques qu'esthétiques. On déterminera la composition d'une bande florale en choisissant une diversité d'espèces végétales particulières qui attireront à la fois des oiseaux et des insectes bénéfiques, et ce, en leur fournissant une nourriture abondante et variée. Comme il s'agit d'un milieu urbain, la sélection proposée comprend des espèces indigènes et des variétés horticoles annuelles et vivaces. À la suite de différents essais, toutes ont démontré un intérêt potentiel d'attrait. Pour attirer des pollinisateurs comme les abeilles domestiques et sauvages, les bourdons et les papillons, la bande florale peut être aménagée dans un emplacement ouvert, bien exposé au soleil, ce qui stimule leur activité et favorise la croissance des fleurs qu'ils préfèrent. Cette bande florale peut comporter une dizaine d'espèces nectarifères, donc bien entendu qui portent du nectar. Il faut privilégier des périodes de floraison réparties du printemps à l'automne. Alors ça peut avoir un petit côté technique, mais de manière très, très simple, elles peuvent aussi comporter des formes de fleurs différentes pour accueillir tous les types d'insectes. Le colibri à gorge rubis a de grands besoins en énergie qu'il comble en ingérant chaque jour plus de la moitié de son poids en sucre. Cet oiseau, par exemple, est particulièrement attiré par les fleurs tubulaires disposées sur des tiges de taille moyenne ou grande, et contrairement à la croyance, ce ne sont pas seulement les fleurs de couleur rouge qui ont un attrait sur lui. Je crois bien que beaucoup de monde aimerait avoir des colibris dans leur jardin. Par exemple, l'ancolie du Canada, la lobélie du cardinal, les monardes fistuleuses et écarlates, ce sont bien des noms savants, mais ce sont des fleurs qui sont parmi les plus recherchées de ce colibri. Alors je vous invite à aller voir sur le site internet ou dans votre dictionnaire. Les oiseaux insectivores, comme les bruants et les parulines, tout le monde le connaît, fréquenteront assidûment tous ces plants pour y dénicher les larves et les chenilles dont ils se nourrissent, eux et leur progéniture. Les oiseaux granivores apprécieront les espèces végétales qui leur fourniront de la nourriture tout l'hiver. En ce qui concerne la bande florale qui est sur le balcon, par exemple, elle peut être aménagée dans un jardin de très petite étendue. Par exemple, l'entreprise Indigo, je vais faire une petite publicité, productrice de semences et de plantes indigènes, propose sur son site internet un mélange de trois espèces qui permet d'attirer ses pollinisateurs. Des espèces remarquables, par exemple, au cours d'essais, deux fleurs se sont démarquées par leur remarquable potentiel mellifère. On va noter par exemple l'agastache fenouil, donc en fait tout simplement le fenouil, qui est une vivace connue pour ses qualités médicinales et culinaires. Ses fleurs tubulaires produisent un nectar abondant jusqu'à l'automne. Peu exigeante, elle se cultive très facilement. Aussi dans la même famille, la menthe de Corée, qui possède des qualités semblables. Enfin, quelques conseils. Une fois établie, une bande florale demande peu d'entretien. Cependant, un certain contrôle doit être exercé sur les variétés exubérantes qui peuvent rapidement prendre le dessus et nuire aux autres plants. Alors, donc, sans être trop jardinier, même pour les jardiniers amateurs, si une plante se ressème facilement ou si de nouvelles espèces s'établissent spontanément, il faut apprendre à les reconnaître à partir des premières feuilles. On peut ainsi effectuer une sélection pour contrôler ou agrémenter la diversité dans la bande florale. À l'automne, ne pas nettoyer l'aménagement afin de permettre à certaines espèces de se ressemer et aux oiseaux de profiter de cette manne qui peut fournir graines et larves d'insectes durant l'hiver. C'est ça en fait, là, d'avoir les gestes écologiques, c'est laisser aussi la nature reprendre un petit peu le dessus, vivre sa vie, entre guillemets. Au printemps, couper les plants desséchés, éclaircir et déplacer certains plants au besoin. Ajouter une couche de compost chaque année pour nourrir le sol. Ça, ce sont des gestes tout simplement simples, tout simples. Renoncer à l'usage de pesticides. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui. Un milieu diversifié hébergera une abondance d'insectes prédateurs et d'ennemis naturels qui contrôleront efficacement les populations des ravageurs. Alors voilà, je vous souhaite donc un bel été au jardin.
L'été aussi, c'est l'occasion de boire un petit rosé ou de boire un verre de vin avec des amis. Alors, Chin Chin, c'est les plus grands buveurs de la planète, imaginez-vous, se trouvent au Tchad et en Arabie Saoudite, selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans ces pays, ceux qui aiment prendre un verre consomment près de 35 litres d'alcool par année. Par comparaison, les buveurs canadiens en avalent en moyenne 13 litres par année, soit l'équivalent de 722 drinks. Alors, après avoir bien bu, peut-être dormir debout, je ne sais pas. Le somnambulisme est fréquent chez les petits. Près du tiers des enfants de 2 ans et demi à 13 ans en seraient victimes, selon des travaux de l'Université de Montréal. Et si maman ou papa a été somnambule, sa progéniture a 3 fois plus de chances de l'être à son tour. 7 fois plus si les deux parents l'ont été. Avoir eu des terreurs nocturnes avec cris, peurs intenses et agitation pendant la petite enfance augmente aussi les risques de marcher en dormant.
Je vais revenir sur les vins, je vais faire le lien avec Daniel. Consommation prête pour le vin chinois, accompagneriez-vous bientôt vos viandes grillées et vos fromages au lait cru ou d'un bon rouge chinois? Pas sûr. 800 000, c'est l'étendue en hectares des vignobles chinois. Cela place le pays au deuxième rang mondial derrière l'Espagne, 1 million d'hectares, mais devant la France, 792 000. Toutefois, ces mêmes vignes produisent aussi du raisin de table et des raisins secs. 11 millions.1, c'est en hectolitres la production de vin total en Chine en 2014. La France demeure le plus grand producteur dans le monde avec près de 47 millions d'hectolitres, suivi de l'Italie, 45 millions, et de l'Espagne, 42 millions. Bienvenue de nouveau sur les ondes de Canal M avec Christine. C'est un article de Frédéric David, d'Enfants du Québec, été 2015. Crème pour enfants, attention aux ingrédients. Je vais essayer de laisser mon tigre hors de ma voix car il m'embête bien en ce matin. Effectivement, il fait un peu plus frais. La journée est belle, mais un peu plus fraîche. La question donc que pose Frédéric David. Sans parabènes, hypoallergénique pour peau sensible, les indications abondent sur les crèmes, les shampoings et les savons pour enfants. Mais peut-on s'y fier? C'est la question, donc. Attention donc aux ingrédients. Au cours des dernières années, plusieurs études et reportages ont montré du doigt des produits hygiéniques destinés aux enfants en raison de leur toxicité. Par exemple, on a découvert dans de nombreux produits de toilette pour bébés du formaldéhyde. C'est un mot technique dérivé du formol, une substance considérée comme un agent cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer, et pourtant toléré dans les produits cosmétiques. Comment est-ce possible? Avant qu'un produit cosmétique soit mis sur le marché en Europe, il doit faire l'objet de tests cliniques et de tests de toxicité. Ce n'est pas le cas au Canada, déplore Michaela Terris, qui est chimiste et cosmétologue à MNK Recherche, un laboratoire privé qui œuvre dans le domaine de la recherche et développement de formulations. Contrairement aux produits naturels et aux médicaments qui ont besoin de l'approbation de Santé Canada pour être vendus sur le marché, les fabricants et exportateurs de produits cosmétiques doivent seulement fournir la liste des ingrédients que contient leur produit dans les 10 jours suivant le début de sa mise en vente. Seule exception, les crèmes solaires, qui sont soumises aux mêmes règles que les médicaments. C'est quand même bien.
Oui.
La réglementation en vigueur au Canada n'est pas assez sévère pour encadrer cet énorme secteur d'activité, estime Régent Lemay, qui est pharmacien et chargé de cours à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. En outre, il s'inquiète des nombreuses zones grises de la législation canadienne en ce qui concerne l'étiquetage, également moins réglementé qu'en Europe. On ne peut pas savoir la quantité exacte des ingrédients des formules en lisant les étiquettes, constate-t-il. D'ailleurs, à ce propos, souvent les étiquettes, je ne sais pas ce qui en ce qui bon se concerne, mais il faut sortir les lunettes pour les lire. Hein.
C'est vrai.
Formule enfant, sur les tablettes, les consommateurs ont accès à un très grand nombre de produits pour enfants. Mais selon les deux experts, si on se fie à leur composition chimique, peu d'entre eux sont réellement adaptés à leur peau délicate qui requiert des soins spécifiques. La peau d'un enfant n'est pas aussi mature que celle d'un adulte, et elle est plus mince, ce qui la rend plus sensible aux produits et aux agressions extérieures, explique Régent Lemay. Il faut être prudent, particulièrement avec les bébés et les jeunes enfants. Inutile de se fier aux indications des emballages, donc qui promettent des formules plus douces ou spécialement conçues pour les enfants, car ces précisions relèvent du marketing. Ce n'est pas parce qu'un produit est sur une tablette de pharmacie qu'il est sécuritaire pour un enfant, prévient Régent Lemay. La qualité d'un produit ne dépend pas non plus de son coût ni de sa marque. Il faut bien comprendre que le risque zéro n'existe pas. L'enfant peut développer une allergie de contact avec n'importe quel produit. Et c'est effectivement valable autant pour les adultes que pour les enfants. En ce qui concerne les nombreux parents qui associent la liste des ingrédients d'un produit à un casse-tête chinois, ils précisent, ils rappellent donc que la meilleure façon de s'y retrouver est de demander conseil à un professionnel de la santé. Donc c'est le B.A.B.A. Et quand vous utilisez un nouveau produit, dit-il, mieux vaut toujours le tester en appliquant une petite quantité au creux du poignet de l'enfant. Faites attention, les ingrédients peuvent changer d'une année à l'autre dans un même produit. Voici donc quelques recommandations pour limiter les risques quand vous choisissez un produit dermocosmétique. Méfiez-vous des produits ayant une longue liste d'ingrédients. Donc ça, c'est la première chose dont on devrait se méfier. Shampoing, bain moussant, gel douche, crème et autres nettoyants sont composés d'un certain nombre d'ingrédients actifs. Il s'agit de produits chimiques au rôle varié, mouillant, nettoyant, moussant, dispersant, émulsionnant ou détergent. Ils peuvent toutefois être irritants pour la peau, particulièrement pour ceux qui sont affectés par la dermatite atopique, communément appelée l'eczéma, souligne le pharmacien. Il recommande donc de choisir des produits qui en contiennent moins pour limiter les risques. L'auteur, Frédéric David, poursuit en disant que choisissez des formules sans parfum, sans alcool, sans huile essentielle. Les parfums peuvent en effet déclencher des allergies et de l'asthme. Ils ne sont toujours pas indiqués sur le produit, précise le pharmacien. Et ce ne sont pas nécessairement les mots « fragrance » ou « parfum » qui sont utilisés sur l'étiquette, mais d'autres termes plus difficiles à identifier pour le consommateur. Par contre, on sent leur présence quand on ouvre le pot. Mais est-ce qu'on va ouvrir le pot? Pas forcément. Hein? Les produits à base d'alcool sont à bannir puisque cet ingrédient peut assécher et irriter la peau. Attention aux crèmes solaires sous forme de vaporisateur, avertit le pharmacien, elles contiennent parfois de l'alcool. Les experts recommandent également de choisir des produits sans huiles essentielles. Alors effectivement, en cette période où on aime beaucoup les huiles essentielles, on parcourt beaucoup les rayons en disant des huiles essentielles, on y court, mais attention, beaucoup de gens y sont allergiques, mais en garde Michaela Théris, la chimiste, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon. Enfin, privilégiez les crèmes hydratantes à base de céramide. L'hydratation de la peau est conseillée à tout âge, car l'eau contient du chlore qui a tendance à assécher l'épiderme. On peut hydrater la peau dès les premiers jours de la vie, mentionne la docteure Danielle Marcoux, qui est dermatologue à l'hôpital Sainte-Justine et professeure à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. La peau des enfants atteints de dermatite atopique ou de ceux qui ont la peau sèche contient moins de céramide. Il s'agit de composants essentiels de la couche externe, explique-t-elle, de la couche externe de l'épiderme, qui aide à préserver l'hydratation. C'est pourquoi il est préférable de choisir une crème hydratante à base de céramide d'origine végétale ou synthétique pour les enfants, conseille le pharmacien Régent Lemay. Enfin, je terminerai avec cette petite précision qui concerne le logo de l'ACD. Alors, l'ACD, c'est l'Association canadienne de dermatologie. Il est à savoir, effectivement, que l'emballage de certains produits dermatologiques est orné du logo de l'Association canadienne de dermatologie. La présence de ce logo signifie que ces produits sont sans parfum, présentent un faible risque d'irritation et ne contiennent aucun des allergènes les plus courants. La liste des ingrédients et les tests faits sur ces produits ont été revus et approuvés par des dermatologues, précise la docteure Danielle Marcoux. Cette évaluation n'est pas obligatoire, ce sont les fabricants qui la demandent, et en cas d'approbation, ils doivent verser une contribution pour afficher le logo de l'ACD sur leur produit.
Je me laissais bercer par la musique, mais c'est pas le temps, c'est le temps de lire. C'est le temps de lire un article sur les secrets de famille. Ah, les secrets de famille, je vous posais la question en début d'émission. On a tous des secrets de famille, qu'on pense. Et puis, c'est un article qui va sûrement vous intéresser. Peut-être que ça va vous donner l'occasion de percer le mystère pour certains. C'est paru dans le Bel Âge de mars 2015 et c'est un article de Jacqueline Simoneau. Alors, toutes les familles ont des squelettes dans leur placard, mais il y a secret et secret. Une personne peut choisir de ne pas dévoiler certaines informations personnelles, exemple un problème de couple, par exemple, sans que cela nuise à la dynamique familiale. Tout le monde a droit à sa vie privée. Les secrets de famille, c'est autre chose. Derrière eux se cachent des histoires malheureuses qui affectent directement ou indirectement plusieurs membres d'une même famille. Ils dissimulent, entre autres, l'homosexualité d'un parent ou d'un enfant, une faillite familiale, des dettes de jeu du père, la maladie mentale d'un grand-père, l'enfant né d'un adultère ou donné en adoption, l'emprisonnement d'un proche que l'on disait émigré en France ou pire encore, un inceste, un viol, de la violence conjugale. C'est ça. Souvent, le secret n'est connu que d'un ou deux membres du clan. Il peut aussi arriver que les parents et la fratrie soient au courant d'un fait, mais qu'ils s'entendent pour le cacher aux autres. Ce phénomène n'épargne personne, pas même les gens célèbres. L'acteur Jack Nicholson a découvert que sa sœur est en réalité sa mère et que celle qu'il appelait maman était en réalité sa grand-mère.
Un scénario assez commun.
Oui, un scénario hollywoodien, pour le moindre. Et plus près de nous, ce n'est qu'à la mort de sa mère adoptive que Lise Dion a appris, en trouvant des documents dans le coffre bleu, qui lui avait été jusqu'alors interdit d'ouvrir, que celle-ci avait notamment été religieuse. Alors, mais qu'est-ce qui peut bien pousser les gens à cacher certains pans de leur vie? La honte, la culpabilité, d'autres le font par désir de protéger un proche, par peur de blesser, de décevoir ou d'être jugé, si ce n'est par peur des conséquences, comme le mari infidèle qui craint de perdre sa femme en révélant ses infidélités. Pour certains, le secret s'accompagne d'une charge émotive tellement grande, dans le cas d'un viol, qu'ils préfèrent ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Toutefois, un fait demeure. Il y a toujours eu des secrets de famille et il y en aura toujours. La libéralisation des mœurs, de la sexualité et de l'emprise de la religion a fait en sorte que certains événements, autrefois inacceptables, ne le sont plus. On ne cache plus un divorce, une adoption ou une grossesse à 15 ans, mais d'autres tabous ont la vie dure, par exemple l'homosexualité, la pédophilie, la maladie mentale, la toxicomanie, la violence conjugale ou l'inceste, c'est dire. Les conséquences du silence. Mon père est mort quand j'avais 5 ans, se souvient Michel. On m'avait dit qu'il était décédé durant un long séjour à l'étranger pour affaires. En vieillissant, j'avais beau questionner ma mère, elle restait évasive sur cet épisode. Finalement, j'ai appris la vérité d'un de mes oncles. Mon père s'était suicidé en prison. J'en ai longtemps voulu à ma mère. Quelles que soient les précautions prises, les membres du clan finissent par soupçonner un mystère. Il y a plusieurs éléments qui les mettent justement sur la piste. L'anxiété des parents, les tensions entre certains proches, les malaises lorsqu'on aborde certains sujets, les phrases entendues ici et là, des conversations interrompues, des chuchotements. Ces comportements laissent supposer qu'il y a anguille sous roche. Pourtant, en famille, chacun continue de faire comme s'il ne se rendait compte de rien. La loi du silence est respectée. Ces secrets jalousement gardés ont souvent un impact négatif sur toute la famille et même sur les descendants des dizaines d'années plus tard. Les secrets de famille peuvent également être en partie responsables de conflits familiaux, de troubles affectifs, de phobies, etc. Et quand il résulte d'événements particulièrement douloureux, abus sexuels, violences, actes criminels, suicide d'un proche, c'est encore plus grave. Elles peuvent mener à la délinquance, la toxicomanie, l'angoisse chronique, la dépression et le suicide. Certaines personnes sont psychologiquement ou émotionnellement plus fortes que d'autres, mais il est difficile de prévoir qui sera à l'abri des répercussions. Faut-il tout révéler? Mario a découvert que son cousin avait été adopté dans les années 50. Le secret avait été, jusque-là, bien gardé. La découverte d'un secret de famille se fait rarement dans l'indifférence. Que vous soyez touché directement ou non, vous risquez de vivre des sentiments, des émotions comme la surprise, sentiment de trahison, la tristesse, la colère, la honte, la gêne, la compassion. Mais il viendra ensuite aussi la question, est-ce que je dois le dévoiler, le fameux secret? Pas à tout prix. Cela dépend aussi de la teneur et de l'importance que vous accordez au secret. Si vous apprenez que votre sœur s'est mariée alors qu'elle était enceinte, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Par contre, tous les secrets qui menacent l'intégrité d'une personne, comme par exemple l'inceste, la violence conjugale, la pédophilie, doivent être rapidement dénoncés. Le fait de lever le voile sur un secret ne réglera pas tous les problèmes familiaux. Au contraire, la révélation d'un secret conservé fait parfois des mécontents. Et il est habituellement plus facile d'être dans le déni que dans la vérité. Rare de voir la famille se diviser en deux clans, les pour et les contre. Donc, avant de vous lancer, analysez la situation. Risquez-vous de faire du tort ou du mal à quelqu'un, de provoquer un profond malaise, d'être aussi rejeté par les autres membres de la famille, d'être accusé de déterrer des histoires anciennes. Comment vous sentirez-vous une fois le secret révélé? Vous ne voulez pas vivre avec ce fardeau, d'accord. Mais la vérité doit être révélée avec doigté, jamais sous le coup de l'émotion, ni à froid durant un souper de famille. Planifiez plutôt une rencontre avec le détenteur du secret ou s'il est décédé, avec la personne bien au fait de ce secret. Trouvez la personne qui pourrait en parler justement de ce secret. Donnez-lui l'occasion de s'expliquer sur les raisons de son silence. Puis incitez-la, la personne, à en parler aux autres. Mieux vaut que ce soit elle qui le fasse. Le secret va à l'encontre de vos principes et de vos valeurs. Il affecte la dynamique familiale ou la vie d'un proche. Encore là, demandez à la personne au cœur du silence de briser celui-ci. Vous préférez ne rien dire, soit, dans la mesure où la décision est réfléchie et assumée. Alors, rappelez-vous que vous ne pouvez pas gérer tous les malheurs passés de votre famille. Non, la découverte d'un secret et sa révélation, s'il y a lieu, vous permettront peut-être de mieux comprendre certains de vos comportements ou ceux de vos proches.
Trinidad, tout là-bas, aux Antilles, à Trinidad, vivait une famille. Il y avait la maman et le papa et le grand-fils aîné, qui à 40 ans n'était toujours pas marié. Un jour, il trouva la fille qu'il voulait. Il dit à son père, je voudrais l'épouser. Hélas, mon garçon, hélas, tu ne peux pas. Car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale si maman savait ça. 2 ans passèrent, puis le garçon un soir vint trouver son père et lui dit plein d'espoir. La maîtresse d'école veut bien m'épouser, mais le pauvre père prit un air accablé. Mon fils, tu ne peux pas faire ça, car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Wow, papa,
quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, tap-tap, quel scandale si maman savait ça. 10 ans après, il revint tout ému et dit à son père, devine ce que j'ai vu. Dans la plantation, on vient d'embaucher plus de 50 filles du village d'à côté. Hélas, mon pauvre enfant, les dieux sont contre toi. Toutes ces filles sont tes sœurs et ta mère ne le sait pas. Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale si maman savait ça. À bout de patience, il s'en fut écœuré. Raconter à sa mère toute la vérité. La mère se mit à rire et lui dit, t'en fais pas. Ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. Wow, maman, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. Wow, maman, quel scandale si papa savait ça. Wow, wow. Quel scandale si papa savait ça. Wow, mama.
Alors, de retour avec Louise, après le scandale de la famille de Sacha Distel, qui est vraiment à propos. Alors, je vais continuer avec les sujets de secret. Cette fois-ci, un petit peu plus léger, ou en tout cas, des finales un peu plus joyeuses. Alors, on a un homme et deux femmes qui est... possiblement le fantasme des hommes. Donc, il a été publié le 11 juillet par Sylvia Galipeau dans la presse. Officiellement, ils sont ensemble depuis 14 ans. Officieusement, 38. Faites le calcul. Ils ont donc vécu plus de 20 ans dans le secret, l'illégitimité, mais surtout l'amour. Récit d'une double vie où la passion a eu le dessus sur la raison. Non, leurs 24 années n'ont pas été de tout repos. Oubliez le long fleuve tranquille. Il y a eu des ruptures, des déchirements, des retrouvailles aussi. Mais toujours une certitude, ils s'aimaient, à la folie. Incapables de se passer l'un de l'autre, même si la raison et la sagesse leur dictaient clairement de se séparer, de s'oublier. On comprend que les deux baby-boomers, bronzés, heureux, visiblement amoureux, aient préféré taire leur identité. Pas parce qu'ils ont honte, tout le contraire, ni parce qu'ils veulent cacher quoi que ce soit. Mariés depuis 5 ans, ils vivent désormais leur amour au grand jour. Mais pour les enfants, leurs enfants, parce qu'ils en ont eu. Et si tout le monde s'entend aujourd'hui entre les fils de l'ex et la fille de la maîtresse, l'équilibre est encore fragile. D'où l'importance de le protéger. Rencontrés dans leur coquette maisonnette de la Rive-Sud, les deux tourtereaux ont accepté de nous faire le récit, anonyme donc, de leur double vie. Et c'est avec un plaisir évident qu'ils se remémorent leur première rencontre, leurs premiers émois. Je ne m'attendais pas pantoute à ça. Il faut dire qu'ils venaient de deux mondes, deux univers, deux milieux complètement opposés. Lui, un riche homme d'affaires, éduqué, marié, père de 2 jeunes enfants. Elle, serveuse, célibataire, avec 1/7 année. « Mais j'ai une belle personnalité », souligne-t-elle en riant. Ils auraient pu, dû, ne jamais se croiser. Mais lors d'un après-midi de golf où monsieur jouait, madame travaillait, tout naïvement, ils se sont mis à jaser. Et ça a cliqué. On ne contrôle pas ça. Hein?
Non, pas du tout.
Ça a fini dans un bar à 5 heures du matin. Non, madame ne savait pas que monsieur était marié. Comment aurait-il pu deviner? Au deuxième rendez-vous, il a fini par tout lui avouer. J'étais très déçue, se rappelle-t-elle. Elle se souvient d'avoir tout garroché à table. Est-ce que la bouteille était tombée par terre? Mais le mal était fait. Je savais que j'étais déjà embarquée, amoureuse par-dessus le marché. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre, alors qu'elle croyait ne jamais être capable d'avoir d'enfants, verdict de médecin, madame tombe enceinte. J'étais la plus heureuse du monde, je voulais tellement avoir un enfant. Non, monsieur n'a jamais, le moindre instant, songé ici quitter sa femme pour sa maîtresse. Jamais. Mais même s'il l'appelait tous les jours, même s'il se voyait plusieurs fois par jour, en prenant soin d'éviter sa rive sud, privilégiant Montréal et Laval, en prétextant des rendez-vous tardifs, boulot oblige, le divorce ne lui est jamais passé par la tête. J'avais une femme, 2 enfants, une vie bien remplie. Je ne me posais pas trop de questions.
mais je savais que je ne pouvais pas me passer d'elle. Et il ne se le cache pas, monsieur avait ici le meilleur des deux mondes, on s'entend. Absolument, reconnaît-il. Et moi, je me serais sentie coupable s'il avait quitté sa femme. Ça faisait mon affaire aussi d'être libre. Alors oui, pendant longtemps, je les ai aimés les deux, reprend monsieur. Même si de toute évidence, la connexion sexuelle était très forte avec sa maîtresse. Beaucoup, oui, beaucoup, conviennent-ils, en pouffant comme des enfants. Du coup, monsieur a vécu la double vie, se comportant en bon père de famille, le genre de papa qui coache l'équipe de hockey de son gars, tout en assistant en parallèle à l'accouchement de sa maîtresse, au baptême de sa fille, même à sa première communion. Mais la relation a été tumultueuse, contexte oblige. Plusieurs fois, ils se sont quittés pour mieux se retrouver. Si ça n'avait pas été de la petite, probablement qu'on n'aurait pas fini ensemble. Mais la petite a toujours été là, et ça nous a rapprochés, souligne monsieur. Évidemment, ça devait arriver, sa femme a un jour tout compris. L'existence d'une deuxième femme, d'un autre enfant, d'une deuxième vie, quoi. Et même si ça a bardé, monsieur est resté. À un détail cocasse près, s'il est resté chez sa femme, il y a accueilli en prime sa fille. Oui, la fille de l'autre. Sa mère, la maîtresse, est partie vivre sa vie dans son Nouveau-Brunswick natal. 2 ans, il a vécu ainsi avec ses fils et sa fille, toute la gang sous le même toit. Non, ça n'était pas nécessairement toujours l'harmonie, mais ça a permis de tisser des liens. La preuve, aujourd'hui, sa fille et ses fils ont une belle complicité. Avec ses frères, c'est merveilleux, dit même madame. Et puis, un beau jour, monsieur a fini par se rendre compte qu'il n'était plus heureux. Je n'étais pas bien, pantoute. Ça a été une période vraiment pas le fun. Sa femme a fini par le mettre dehors, ou est-ce lui qui a proposé de partir? Peu importe. Toujours est-il qu'il est allé directement chez sa maîtresse, la meilleure décision de ma vie, et qu'ils ne se sont plus jamais quittés depuis. Mais moi, je n'étais pas prête. J'ai capoté ben raide. Les deux poufs se souvenant de leur premier moment ensemble en toute légitimité. Et puis, il y a 5 ans, les deux amoureux se sont mariés, avec 2 témoins de choix, un fils d'un côté, une fille de l'autre. J'ai toujours su que c'était lui. Je me suis toujours dit, à 50 ans, je vais être avec un homme et il va me faire rire. Et c'est à 50 ans qu'on a finalement été ensemble. Alors, on continue dans les secrets. C'était quand même
une belle histoire d'amour.
Alors, c'est le testament surprise. Alors, on se disait à la pause que les notaires étaient des gens qui voyaient bien des histoires. Alors, c'est encore Sylvia Galipo. C'est l'histoire de 2 octogénaires venus un jour finaliser leur testament. Un testament classique, monsieur cédant tout à madame et vice-versa. Ils signent et repartent, bras dessus, bras dessous. 20 minutes après, monsieur rappelle. « J'aimerais faire un petit changement », raconte leur notaire, pas peu fier de son histoire, qui a le don de déchaîner les passions. « Un petit changement ? Enlever le nom de ma femme et marquer celui-ci. » Vous l'aurez compris, il déshéritait par le fait même complètement sa femme, la mère de ses enfants, avec qui il était marié depuis plus de 60 ans. Et c'était un petit changement pour lui, finalement. Beau salaud, difficile de trancher. Sa femme, atteinte d'un cancer, devait mourir il y a plus de 15 ans. Mais elle ne meurt pas. Or, depuis, il a rencontré l'amour fusionnel, passionnel. Il croyait vivre sa passion en cachette, le temps que sa femme soit emportée par sa maladie. Seulement voilà, elle ne meurt pas. Je suis coincée entre la femme que j'aime et la femme que j'ai aimée. Alors, pour faire un beau 2 de 3 ou 3 de 2, l'homme qui n'avait pas de bague. Sandrine avait 39 ans, elle venait d'emménager avec son copain, un chic type avec qui ça allait plutôt bien, sans plus, quand elle a rencontré Stéphane. Ça a été le coup de foudre instantané. Ils ont vécu une passion foudroyante, des textos, des soirées entières, aux soirées à l'hôtel, en passant par un voyage torride à Miami. Et puis, il l'a déçue. Il ne s'est jamais pointé à une soirée où elle l'avait invité. Ainsi s'est terminée la relation. Entre-temps, elle a aussi quitté son chum. 2 ans plus tard, Sandrine a reçu un coup de fil. « Bonjour, je suis la femme de Stéphane. »« Pardon? Jamais, au grand jamais, elle ne s'était doutée que son bel amant était marié. Pire, non seulement il avait une femme, mais encore, il avait 3 enfants. Pire encore, il était avec moi pendant que sa blonde était enceinte du 3e.
Alors, de secrets de famille à toutes sortes d'histoires, vraiment.
Ça a été.
Ben oui, les mots de cœur, à pas donner des mots de cœur, les histoires. Franchement, merci, ça a été très agréable. Et ainsi va se terminer l'émission dans quelques minutes. Merci à Mathieu Tessier, à la technique, Christine, Louise et moi-même, Daniel. Vous pouvez justement aller sur le site canalm.org, alors canalm.org, pour avoir accès à toutes les émissions de Vues et Voix. Et la reprise de l'émission Kiosque Magazine, celle que vous venez d'écouter, vous pouvez la réécouter à 13h et à 21h en continu à tous les jours jusqu'à la semaine prochaine. Et justement, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et profitez de la fraîcheur pour emmagasiner de la fraîcheur dans votre maison. Ouvrez les fenêtres et sortez dans la rue. Prenez le temps de prendre une belle marche. Alors, au revoir et à la semaine prochaine.
Bye-bye.
Bye-bye. Au revoir.